Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Que ce soit dans l'armée, la conduite des affaires du pays, la justice, l'enseignement, l'administration, les collectivités territoriales ou les choix de politique intérieure, l'autorité est le pilier central, ou devrait l'être. C'est par ces mots ou presque que commence le livre de l'un de nos invités de ce matin. En jeu donc la question de l'autorité. La conviction de Bertrand Soublé, ancien général de gendarmerie, la France traverserait une vraie et grave crise de l'autorité. Mais qu'est-ce que l'autorité ou une juste autorité? Entre autoritarisme et laxisme, quel juste milieu, quelle boussole? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin. Une émission Vivante Église ce matin, faut-il restaurer l'autorité? Point d'interrogation avec autour du plateau Bertrand Soublé, donc ancien général de gendarmerie et auteur d'un ouvrage récent intitulé « Sans autorité, quelle liberté ?» Point d'interrogation, paru aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Le père François Daguet qui est avec nous en plateau dominicain à Toulouse, directeur de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin, bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra un petit peu plus tard Virginie Guerreria qui est chef de service éducatif dans un établissement scolaire des apprentis d'Auteuil, établissement qui s'appelle Saint-Roch. On commence avec vous, Bertrand Soublé. Donc, on va peut-être commencer par vous présenter. Je disais donc, vous êtes ancien général de gendarmerie. Vous avez écrit un ouvrage il y a quelque temps de cela, intitulé « Tout ce qu'il ne faut pas dire », où vous disiez un peu vos quatre vérités, si je ne me trompe, sur la gendarmerie. Cela vous a valu d'être obligé de quitter la gendarmerie. Et puis aujourd'hui, vous écrivez ce livre dont on va parler. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur cet acte de liberté que vous avez posé et sur les suites qu'il a eues?
Oh bah écoutez, en réalité, c'était pas un acte de liberté, c'était un acte de responsabilité, car ça a commencé par une audition à l'Assemblée nationale en décembre 2013 qui m'a valu d'être pointé du doigt pour avoir dit devant la représentation nationale ce qu'était à l'époque l'état de la sécurité de notre pays. Et ensuite, comme j'ai été maltraité et j'ai considéré que on m'avait mis dans le rôle du lanceur d'alerte, j'ai continué avec ce livre, qui n'est pas d'ailleurs un livre de règlement de compte, qui est simplement un livre qui permet de faire l'état, un état de notre société. C'est d'ailleurs beaucoup plus large que la gendarmerie, ce livre, parce que nous vivons des temps extrêmement difficiles, notamment sur les questions d'autorité. Il me semblait normal qu'un responsable de niveau national puisse s'exprimer là-dessus.
Voilà, en tout cas, ça me paraissait important de le préciser au début de l'émission, parce que c'est, même si ça semble assez naturel pour vous, peut-être que, comment dire, la première vertu qu'on demande à un chef, c'est justement d'avoir du courage. Je propose du coup qu'on se plonge assez rapidement dans cette première partie, dans votre livre. Alors, votre livre est un constat un petit peu amer de la situation de la France. Alors, on va pas pouvoir citer toutes les questions que vous soulevez. Je prendrai d'abord la crise de confiance à l'égard du politique et peut-être aussi, je sais pas si ça va avec, la défiance que les citoyens peuvent avoir à l'égard de la France. Vous citez entre autres ce qui peut paraître être une tarte à la crème, mais la question de la Marseillaise. Combien de fois, dans des lieux de rassemblement, au moment où retentissent les premières notes de la Marseillaise, certains n'ont qu'une attention toute relative, voire une attitude franchement incorrecte, sans que cela ne choque personne. Qu'est-ce que vous nous diriez sur cette crise de confiance à l'égard du politique, cette défiance à l'égard de la patrie?
Bah, c'est-à-dire que cette crise de confiance s'inscrit dans un contexte que nous connaissons quand même depuis plusieurs dizaines d'années, et à mon avis qui remonte aux élucubrations de 1968, où on a fait croire à tout le monde que l'autorité est antinomique de la liberté et du droit d'expression, ce qui n'a strictement aucun sens, parce que justement l'autorité protège la liberté, et je crains que il y ait un malentendu énorme qui se soit produit depuis 1968 et on n'en est pas sorti. Et tout découle de ça, c'est-à-dire tout ce qui représente l'autorité, notre drapeau, le bleu, blanc, rouge, la Marseillaise dont vous venez de parler, tous ces symboles qui sont des symboles extrêmement importants ont été malmenés, ont été maltraités et ont été écartés du débat public pendant de très nombreuses années. Et c'est ça aujourd'hui qui nous met en grande difficulté, parce que l'autorité, ça démarre aussi à la maison, à l'école, avec l'éducation. Et si on n'apprend pas tout cela à nos jeunes générations. C'est sûr que dans quelques années, nous serons dans une situation encore plus difficile que celle que nous connaissons aujourd'hui.
Et quid de la défiance des Français à l'égard de la classe politique? Est-ce que pour vous,
ça relève de ce que je viens de dire? C'est-à-dire que les hommes politiques se sont inscrits dans cette mouvance-là. Ils se sont laissés guider par certains lobbies. Moi, je les appelle des lobbies associatifs et droits de l'hommiste qui ne prennent pas les choses comme elles doivent être prises. On ne peut pas régler les problèmes d'une société en permanence avec la compassion. Il faut en avoir pour régler les situations humaines, évidemment, et c'est pas compte tenu de mes convictions que je pourrais dire le contraire. Mais pour autant, quand il s'agit de prendre des décisions de niveau national qui impliquent tout un corps social, il ne faut pas le faire avec la compassion, c'est pas possible. Il faut le faire avec la raison. Et la raison nous impose souvent de prendre des positions qui sont un peu difficiles, mais elles sont prises parce que elles vont dans le sens de l'intérêt général, ce qui n'est pas le cas des décisions quand ils en prennent, des hommes politiques depuis un certain nombre d'années.
Mais votre propos peut paraître assez, comment dire, pardon, hein, mais est-ce qu'il ne prend pas le risque d'être un peu caricatural quand il est présenté peut-être de manière binaire? Est-ce que les conclusions sur la classe politique française ne peuvent pas être un peu plus nuancées que cela?
Oui, bien sûr, elles doivent être nuancées, mais là, je m'exprimais d'une manière générale. Mais vous savez, quand vous regardez les 20 dernières années dans notre pays, sur un certain nombre de sujets, les décisions n'ont pas été prises. Et les Français regardent ça.
Est-ce que vous pouvez prendre des exemples dans ces cas-là?
Ah ben, c'est extrêmement simple, je vais prendre deux ou trois exemples. Le premier exemple que je peux prendre, c'est celui de la décision qui a été prise dans les années 60 sur l'énergie nucléaire. Nous avons décidé d'aller dans l'énergie nucléaire, ce qui nous a d'ailleurs donné la possibilité d'être autonome de ce point de vue-là. C'est bien, c'est une vision, c'était le général de Gaulle. La question c'est, est-ce que nous avons anticipé les conséquences de ce choix-là, notamment sur la gestion des déchets nucléaires? Non. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises sur le sujet jusque dans le début des années 90? Non plus. Et aujourd'hui, on est en train, l'État est en train de se faire d'être défié à nouveau dans une ZAD, dans la Meuse, où on essaie de faire en sorte de régler ce problème de manière durable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les hôpitaux et les EHPAD dont on parle aujourd'hui. Nous savions très bien que nous allions avoir, d'un point de vue démographique, une explosion de nos anciens et de nos aînés. A-t-on pris et a-t-on anticipé, a-t-on pris des décisions pour anticiper tout cela? Non, aujourd'hui on est dans une situation extrêmement difficile. Dernier exemple, les prisons. J'ai dit devant l'Assemblée nationale il y a plusieurs années que nous étions en difficulté pour les prisons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de places de prison, même si la prison n'est pas la panacée, mais nous n'avions pas assez de places de prison. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'établissements pénitentiaires qui ne respectent pas la dignité humaine. Donc nous devions construire des prisons. Qu'est-ce qui a été fait pendant toutes ces années? Eh bien rien du tout. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée parce que nous n'avons pas de quoi faire face à notre délinquance et à mettre en prison ceux qui mériteraient de l'être, et quand on met en prison, le faire en respectant la dignité humaine. Donc vous voyez, tous ces exemples font que les politiques ont perdu leur crédit vis-à-vis de la population, parce que les Français regardent ça, ils se disent « mais que font-ils ? Que font-ils pour régler les difficultés que nous connaissons ?» Eh bien je regrette, mais il faut aussi avoir un peu l'autorité et prendre des décisions, la démagogie ne suffit pas.
Alors, c'est ce que vous dites dans votre prologue. Hein, vous dites que en France, le déficit en ce domaine, en matière d'autorité, est pour vous considérable. C'est vos mots. J'aimerais que vous citiez quelques exemples que vous donnez dans votre livre, au-delà peut-être du constat de la crise, où pour vous, même si ce que vous venez de citer servait aussi d'illustration, où pour vous, la restauration de l'autorité est urgente. J'en cite un premier, au risque d'être un peu polémique, mais vous en parlez dans votre livre. C'est la question de l'islam. À la presque dixième ligne, vous avez cette phrase « tous nos problèmes proviennent de l'incompatibilité de l'islam avec nos propres valeurs ». Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
Oui, en réalité, si vous voulez, ce que je pense profondément, c'est que, contrairement à certains autres, c'est que l'islam, le vrai islam, je ne parle pas d'islam radical, L'islam est une religion avec laquelle nous avons quand même les uns et les autres, quelles que soient nos religions, quelques concordances, même si les interprétations ne sont pas toujours les mêmes. Moi, ce qui me pose une difficulté, c'est pas la religion en tant qu'islam, ou l'islam en tant que religion plutôt, c'est l'islam en tant que système politique. Parce que dans l'islam, il y a la partie religieuse, mais la partie aussi sociale, sociétale et politique. Je regrette, mais nous sommes, nous, dans une république. Et dans une république, ce sont des lois qui ont été votées qui s'appliquent. Et c'est certainement pas la charia ou la loi de la religion de l'islam. Pour ce qui concerne, j'allais dire, ma position un peu caricaturale, on pourrait dire ça, ça concerne surtout l'islam radical que nous avons toléré depuis de nombreuses années sur notre pays, ou dans notre pays. Je prends un exemple. Quand j'étais directeur des opérations de la gendarmerie, un certain nombre de notes me remontaient comme quoi dans des mosquées un peu partout en France, des imams tenaient des propos appelant à la haine, à la violence. Nous le savions. Nous avons fait remonter vers le pouvoir politique ces informations. Elles n'ont jamais été suivies des faits. Et ça, je pense que c'est une grave erreur de nos politiques de ne pas avoir fait preuve d'autorité et de prendre des décisions pour expulser tous ceux qui, aujourd'hui, s'élèvent contre les lois de la République et prônent la violence et la haine.
Vous dites, voilà,
voyez, c'est un petit exemple.
Vous dites, entre autres, dans votre livre que pour vous, en fait, tous les imams devraient parler français, par exemple.
Ben oui, oui, parce que nous sommes en France et il me paraît normal que lorsqu'on s'exprime quasiment de manière publique, on parle français. Sinon, si on veut parler une autre langue, on va dans le pays où cette langue est pratiquée.
Et, est-ce que vous pourriez citer je vous lance sur un autre exemple. Vous parlez de la lutte contre la fraude.
Oui.
Vous dites que c'est presque devenu un mal français. Vous citez un certain nombre d'exemples. Je vais vous laisser peut-être choisir ce que vous citez. Pourquoi est-ce que vous en faites aussi une priorité?
Ben, j'en fais une priorité parce que, si vous voulez, j'estime que la lutte contre la fraude, c'est d'abord une question de justice et presque même de justice sociale. Parce que vous avez une quantité infinie de Français qui sont en difficulté, dont vous n'entendez jamais parler, qui respectent toutes les règles, et vous en avez d'autres qui ne sont pas forcément ceux qui sont le plus en difficulté, qui profitent du système et qui font en sorte de le détourner à leur profit d'une manière éhontée.
Est-ce que vous pouvez citer des exemples ?
Oh ben, des exemples, vous savez, c'est le travail au black, le travail dissimulé, un certain nombre de personnes qui profitent du système des prestations sociales en ayant plusieurs identités, etc. Et ça, c'est deux exemples précis. Et là, alors que tout le monde le sait, personne ne réagit. Ah, je dois dire que depuis quelques mois, un peu plus que quelques mois, d'ailleurs c'était antérieur aux dernières élections présidentielles, il y a un certain nombre d'organismes qui ont commencé à organiser la fraude, mais la lutte contre la fraude. Mais pourquoi a-t-on attendu si longtemps? Parce que vous avez cette manière de faire et me paraît contraire aux intérêts de notre pays parce que ça accentue les inégalités sociales, parce que ceux qui devraient en profiter n'en profitent pas, et ceux qui ont l'intelligence ou, la malignité de pouvoir en profiter, eh bien, le font de manière éhontée. Donc c'est ça, moi, qui me gêne beaucoup, parce que en termes de morale, il y a un vrai souci.
Alors vous dites dans cette question de la lutte contre la fraude que aussi certaines des décisions de l'État qui sont actionnaires dans des grandes entreprises pourraient être aussi questionnées, bref que ça peut aussi un certain nombre d'entreprises pourraient peut-être se sentir concernées. Comme le temps file, on renverra à la lecture de votre ouvrage, mais vous allez rester de toute façon avec nous. Vous finissez votre livre en donnant un abécédaire de ce qui est pour vous un bon chef. Vous commencez par dire qu'en France on a la culture du chef. Alors comment faut-il entendre cette remarque? Est-elle aigre-douce?
Non, elle n'est pas aigre-douce, c'est simplement un constat. Vous savez, pourquoi je dis ça? Parce que vous prenez, regardez autour de vous, chaque auditeur qui nous écoute ce matin peut regarder autour de lui, et quand vous estimez la situation des uns et des autres autour de vous, vous avez toujours un directeur, un président, toujours quelqu'un qui a une apparence d'autorité.
Mais
et donc c'est en cela que je dis qu'il y a une culture du chef.
Mais qu'est-ce que cela dit, à votre avis?
Ben cela, cela dit que dans notre société et à mon sens dans notre monde cartésien, nous avons un problème très clairement, et je le sais puisque je côtoie des gens qui ont des responsabilités depuis un certain temps, nous avons un problème de maîtrise des égos ou de l'ego. Nous avons tous besoin d'exister, et chez nous, ça prend, à mon avis, dans notre société française, une forme paroxystique qui s'exprime de cette manière.
Alors, trois lettres dans votre abécédaire, on en a choisi trois. A pour autorité, pour commencer, ça va sans dire. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Vous dites qu'un chef charismatique est probablement l'idéal. Donc l'autorité serait quoi? Serait un don que tout le monde n'aurait pas?
Non, l'autorité, c'est... Oh, vous savez, sur l'autorité, on est passé d'une conception ancienne d'autrefois où on disait que l'autorité, c'est imposer l'obéissance. Et aujourd'hui, on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'on dit que l'autorité, ça s'obtient par le respect et la confiance. En fait, c'est ça. Le fond du problème, il est là. C'est qu'il ne s'agit pas d'être arbitraire. Il ne s'agit pas d'autoritarisme. Il s'agit simplement de pratiquer l'autorité, avec d'ailleurs le deuxième terme qu'on va évoquer, qui est la bienveillance, et avec en respectant ceux sur lesquels on exerce son autorité. Je pense que beaucoup trop de ceux qui exercent l'autorité ne se rendent pas compte de l'effet que ce qu'ils disent et que les décisions qu'ils prennent ont sur la vie personnel de ceux qu'ils commandent ou de ceux sur lesquels ils exercent une autorité. Ça, c'est extrêmement important pour quelqu'un qui exerce l'autorité d'avoir ça en tête, se dire, quand je dis que je fais quelque chose, ça a un effet, et probablement un effet bien plus important que ce que j'imagine.
Alors justement, B comme bienveillance, qu'est-ce que vous diriez sur ce volet? Vous
dites... mais la bienveillance, c'est absolument essentiel quand on exerce des responsabilités. Mais la bienveillance, c'est de considérer l'autre, c'est-à-dire d'avoir une notion de l'altérité qui n'est pas celle que j'entends de temps en temps, qui est que l'autre peut être un prolongement de soi-même, pas du tout. L'autre n'est jamais un prolongement de soi-même. Il ne faut jamais imaginer que celui qui est en face de soi réagit et pense comme chacun d'entre nous. La vraie altérité, c'est de se dire que celui qui est en face de nous est différent et qu'on doit respecter sa différence tout en exerçant son autorité. Mais c'est une alchimie extrêmement compliquée à obtenir. Et très honnêtement, il y en a qui sont doués pour ça et d'autres qui ne le seront jamais.
Enfin, dernière lettre, E comme exemple ou exemplarité. Dans la difficulté, vous citez cet exemple qui semble-t-il est souvent cité dans le milieu militaire. Dans le milieu militaire, pour convaincre les jeunes cadres de la valeur et de la nécessité de l'exemple, les instructeurs ont coutume de dire, dans la difficulté, lorsque le chef est debout, les hommes sont assis, et lorsqu'il est assis, la troupe est couchée.
Oui, c'est pour nous, c'est une évidence. Ceux qui ont reçu cette formation militaire, c'est une évidence. Le chef doit être exemplaire. Pourquoi il doit être exemplaire? Parce qu'on ne peut pas être en permanence dans le « fait ce que je dis et pas ce que je fais ». Et pour être crédible et pour obtenir la confiance de ses subordonnés, y compris pour des militaires qui sont appelés, je le rappelle, à commander des hommes qu'ils vont amener à sacrifier probablement leur vie parfois sur certains théâtres d'opérations extérieures comme c'est le cas actuellement, eh bien il doit y avoir ce lien qui existe entre les personnes, et ce lien ne peut être renforcé que par l'exemplarité. Et quand on porte sur son chef un regard de référence, c'est-à-dire que celui qui est au-dessus, celui qui est en face, doit être considéré comme une référence, comme quelqu'un qui est capable de donner des ordres, de donner la direction quand le chaos est tout autour.
Merci Bertrand Soublet, vous restez avec nous, on va faire une première pause. Le titre de votre ouvrage, « Sans autorité, quelle liberté ?», point d'interrogation, paru aux éditions de l'Observatoire.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Faut-il restaurer l'autorité, point d'interrogation, c'est le titre de l'émission Vivante Église ce matin, avec autour du plateau Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie, auteur d'un ouvrage Sans autorité, quelle liberté, point d'interrogation, paru aux éditions de l'Observatoire, le père François Daguet, qui est dominicain et directeur de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse, et un peu plus tard nous rejoindra Virginie Guerreria, chef de service éducatif à Saint-Roch, un établissement des apprentis d'Auteuil. Les apprentis d'Auteuil, pour rappel, c'est donc cette association, dans cette fondation qui accompagne des jeunes et des familles en difficulté, plus de 30 000 en France, dans plus de 200 établissements, et ce depuis plus de 150 ans. Alors, au risque d'être un petit peu scolaire, vous êtes toujours avec nous, Bertrand Soublet, donc n'hésitez pas à intervenir. On s'était dit qu'il pouvait être intéressant de sortir un peu de l'actualité, puisque votre livre quand même évoque un certain nombre de sujets politiques dont certains sont chauds, entre autres par exemple les prisons que vous citiez ou les EHPAD. On s'était dit qu'on allait essayer de redéfinir ce qu'est l'autorité. Alors du coup on s'est tourné vers les dominicains et avec vous François Daguet, je me suis posé un certain nombre de questions toutes simples auxquelles vous allez répondre. Comment vous commenceriez par définir ce qu'est l'autorité, avant de voir peut-être ce qu'elle vise, ses maladies et ses remèdes. François Daguet.
Écoutez, l'autorité, je crois que c'est une relation d'abord qui s'établit entre des personnes au sein d'un groupe, quel qu'il soit. Les groupes humains sont très divers. Hein. Entre des personnes qui sont chargées, qui ont la charge justement de diriger ce groupe et les personnes qui en font partie, en les instruisant, en les guidant, en les éclairant, et ceci dans un esprit de service. Hein. Il s'agit de conduire ces associations humaines et les personnes qui en sont membres, si vous voulez, vers ce qui constitue leur bien. Bon, l'exemple le plus élémentaire de la société politique, c'est la famille. Hein. Et comme toujours, on lit L.I.T., ce qu'est l'autorité dans la famille à travers l'autorité des parents. L'autorité des parents, elle s'exerce au bénéfice et au service des enfants, hein, en les guidant pour que, on rejoint le thème de la liberté que vous aviez évoqué tout à l'heure, pour qu'ils deviennent progressivement des personnes. Hein. Et j'ajoute d'ailleurs tout de suite qu'on voit que, quand je parle de l'autorité des parents, ben, l'autorité du père et l'autorité de la mère ne prendront pas des physionomies forcément semblables.
Hein. Donc
L'autorité, elle est différente selon les situations. On dira en langage technique, si vous voulez, qu'elle est analogique. Hein. Autre est l'autorité du père, autre l'autorité de la mère, autre l'autorité du professeur, autre l'autorité du cadre d'entreprise, autre l'autorité du responsable politique.
En tout cas, on ne peut pas vivre sans autorité.
Alors, je crois que le principe, justement, c'est une des questions très intéressantes aujourd'hui, c'est que, j'allais dire, depuis que, on réfléchit dans le monde au moins occidental, le principe d'autorité est présent. Voyez les interrogations de Socrate à propos de la tyrannie, justement, hein, dans la République de Platon. Justement, on s'interroge sur ce en quoi consiste la perversion d'une autorité politique. Bon, donc, on a toujours considéré que dès lors qu'il y avait un groupe humain, il y avait un principe d'autorité qui devait s'exercer en son sein. Alors, à partir de là, s'exerce-t-il convenablement? S'exerce-t-il effectivement pour le bien de ceux qui font partie de la communauté? C'est quelque chose qui est matière à appréciation.
Alors, premier élément capital, quel est le nord, j'ai envie de dire, pour la boussole d'une juste autorité?
Ben, la boussole, le nord, qui est un nord qui n'est pas toujours facile à déterminer, mais qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, c'est le bien que l'on poursuit. Quel est le bien que je poursuis dans telle situation où je me trouve? Si je suis professeur, enseignant dans l'éducation nationale, j'aurai un rapport d'autorité avec les élèves, et le bien que je poursuis, c'est la formation de ceux qui me sont confiés. Voilà, dans le domaine qui est le mien. Voilà. Et ceci, vous pouvez le décliner, encore une fois, de façon analogique, dans tous les groupes humains que vous pouvez concerner. Si vous avez une autorité dans le monde du travail, dans l'entreprise, ici à Radio Présence, si vous voulez, l'autorité de celui qui dirige, eh bien, c'est que la tâche, la mission d'information et de culture chrétienne qui est dévolue à cette radio puisse s'exercer. Voilà. Donc, quel est le bien que je poursuis? Et c'est vrai, dans l'ordre politique, ou le plus général, si vous voulez, quel est le bien d'une communauté politique? Voilà. C'est alors, ça qu'il faut poursuivre.
C'est ce qu'on appelle communément, en fait, le bien commun, c'est
oui,
ça?
Oui.
Qui est un bien, en fait, qui dépasse les intérêts particuliers, puisque souvent, on le met en regard de ce qu'on appelle l'intérêt général.
Oui.
Peut-être, est-ce que vous pouvez faire la distinction qui vous est peut-être coutumière, mais qui n'est pas coutumière de tout le monde?
Oui, c'est une notion, c'est frappant de voir hein, que la notion de bien commun revient dans le discours politique d'ailleurs aujourd'hui, alors qu'il avait complètement disparu depuis longtemps, mais il revient...
Emmanuel Macron cite souvent ce...
Tout à fait, oui. Tout à fait, il n'est pas le seul. Mais il ne faut pas oublier que dans bien commun, il y a bien. C'est rappeler d'abord que ce qui finalise, si vous voulez, comme vous dites, le Nord, hein, l'orientation que l'on va prendre, c'est en vue d'un bien. C'est d'un vide, un bien. Un bien, c'est un bien moral. C'est presque un pléonasme que de le dire, si vous voulez. Hein. Et c'est cela qu'on va chercher. Alors, ce que l'on appelle justement bien commun, alors dans l'acception classique, ancienne, si vous voulez, des choses, et qui, je crois, pour ma part, n'a pas perdu nécessairement de sa validité, le bien commun, c'est justement le bien du tout que nous formons tous ensemble, vous voyez, et qui a vocation à être... en un sens supérieur au bien de chacune des parties. Hein, il y a un bien commun qui dépasse, tout en les assumant, les biens singuliers de chacune des composantes. Hein. Ça, c'est la grande acception classique des choses. Ce qui s'est passé subtilement...
Pourriez-vous prendre un exemple?
Eh bien, écoutez, tout simplement, dans une communauté politique... Hein dans une communauté politique, quel est le bien que l'on vise? Quel est le bien que l'on vise? Les auteurs les plus vénérables, hein, je me réfère, je ne sais pas, à Aristote, ou même repris par saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, et on trouve ça chez beaucoup d'auteurs, on trouve ça chez Cicéron, n'est-ce pas? La visée d'une communauté politique, d'une association politique, qu'on l'appelle cité, république, comme vous voulez, peu importe la dénomination, c'est un certain bonheur partagé. Le bonheur de vivre en commun. Vous voyez, Aristote a cette formule très belle. Hein, il dit le bien de la cité, c'est le bien du tout et de chacun en particulier. Il y a un bonheur à vivre ensemble. Est-ce que c'est cela qu'on vise ou pas? Alors justement, la transformation qui s'est produite depuis très longtemps, hein, déjà depuis certainement l'orée de l'époque moderne, c'est que progressivement, on a réduit le bien commun à un ensemble de conditions et de moyens, si vous voulez. Au service, souvent, ou dans certains cas, de biens plus particuliers, de groupes plus particuliers ou de biens singuliers. Et je suis frappé de voir aujourd'hui que la thématique du bien commun, elle revient, mais très souvent sous l'angle économique. Le bien commun, ce sont les conditions économiques qui vont permettre à chacun ou à chaque groupe de tendre vers son propre épanouissement.
Même s'il est dit que, comment dire, c'est Bernard Ribal dans une des émissions, donc entre autres conseiller spécial de la CFTC et président des semaines sociales à Toulouse, je fais une incise, mais que j'ai trouvé vraiment très intéressante, il expliquait qu'il y aurait dans les cartons du gouvernement la redéfinition de l'objet social de l'entreprise et que l'objet social demain pourrait être de viser le bien commun et pas seulement comment dire, le profit de l'entreprise. Voilà, parenthèse refermée, mais je trouve que c'est un signe fort.
C'est une préoccupation. Je n'ai aucune connaissance des cartons supposés du gouvernement sur ce sujet, mais on voit très bien justement depuis très longtemps déjà, et les semaines sociales de France l'ont bien illustré pendant très longtemps, que la préoccupation justement de la finalité du travail dans l'entreprise, bien sûr, c'est de réaliser l'objet même de l'entreprise, fabriquer des produits ou des services et les vendre, mais c'est également la situation du bien des personnes à l'intérieur de l'entreprise. Tout l'enseignement social de l'Église ne cesse de le répéter.
Alors, probablement que ça mériterait une autre émission, mais y a-t-il en fait des constantes dans ce bien commun? Parce que ce qu'on pourrait vous rétorquer, c'est que comment définir ce bien commun? Et aujourd'hui, on peut avoir l'impression que justement, on peut avoir des définitions assez plurielles de ce bien commun, selon les particularités des groupes ou ce qu'ils imaginent être leur bien propre.
C'est l'extraordinaire complexité de cette question hein, que vous soulevez là. Pour définir le bien d'un groupe, si vous voulez, hein, je ne sais pas, prenons un groupe politique, je crois que il faut être capable de préciser quelque peu quel est aussi le bien singulier de ceux qu'il constitue.
Alors, même chose, exemple ?
Eh bien, très clairement, pour vous, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Voyez ? Puis-je gouverner une cité ? C'est toute l'interrogation, la magnifique interrogation d'Aristote, vous savez, hein, qui, je crois, n'a rien perdu de sa validité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on y revient très souvent. Pensez à la grande philosophe Hannah Arendt. Hein. Puis-je m'interroger sur le bien de la cité si je ne me suis pas interrogé au préalable sur ce en quoi consiste le bonheur de chacun de ses membres ? C'est toute l'interrogation d'Aristote qui va mettre en valeur justement cette vie, au fond, selon le bien, si vous voulez.
Seulement aujourd'hui, on ne serait-ce qu'en France, on l'a vu par exemple à l'occasion du mariage pour tous, on a des définitions du bien qui sont plurielles.
Vous avez parfaitement raison, et c'est tout le problème des sociétés contemporaines. C'est le problème des sociétés contemporaines que Joseph Ratzinger, puis Benoît XVI, qui ne se sont pas contredits, traitaient en parlant du relativisme éthique, si vous voulez, des sociétés contemporaines. C'est un redoutable défi auquel nous sommes confrontés dans les communautés politiques. Comment construire une communauté politique à partir du moment où ceux qui la composent ont des conceptions différentes du bien qu'elles poursuivent ? C'est un véritable défi et nous y sommes confrontés. Je n'ai pas de réponse immédiate à la question. Je crois que il faut, la ligne, c'est qu'il faut chercher à former un consensus éthique fondamental pour qu'il y ait communauté politique, justement. Voyez. C'est un vaste travail. Et la question qui se pose aussi, c'est de savoir si cela peut se faire en dehors d'une perspective religieuse.
Alors juste, je permets de donner juste rapidement la parole à Bertrand Soublet. Est-ce que vous avez eu l'impression dans l'exercice de votre mission que ces différentes conceptions du bien commun ou du bien que l'on peut viser quand on a des responsabilités politiques directement ou indirectement, comme c'était votre cas, c'est au final un vrai problème pour l'exercice de l'autorité, Bertrand Soublet ?
Un vrai problème. Moi, je partage totalement ce que vient de dire le père Daguet sur le bien commun. Moi, ce qui m'a animé depuis le début de ma vie, c'était le sens du service, en réalité. J'ai été animé que par ça, par le sens du service. Et évidemment, le bien commun prend toute sa place d'un point de vue matériel et spirituel, en réalité. Je crois que la recherche du bien commun est vraiment le fondement de toute organisation sociale et politique.
Mais pardonnez-moi, ma question était plus précise que ça, c'était de vous demander en fait, on imagine ou on espère que vous visiez le bien commun, le père François Daguet disait, on citait cet exemple à l'occasion de la loi sur le mariage pour tous, qu'aujourd'hui la difficulté c'est que les Français peuvent avoir une vision parfois contradictoire du bien commun. Est-ce que dans l'exercice de votre autorité, ça a été une difficulté pour vous ça ?
C'est une difficulté au quotidien. Parce que nous n'avons pas la même appréciation les uns et les autres de ce qu'est le bien commun, parce que nos expériences, notre culture, notre vision de la vie est différente. Et la grande complexité, c'est d'essayer de mettre en cohérence toutes ces visions et de ne pas s'égarer. Alors quand on a, une grande direction qui est donnée par, l'échelon du gouvernement, ça va bien. Mais comme ça n'est jamais le cas de manière très explicite, chacun est parfois dans sa sphère de compétences et un peu libre de le faire. Donc parfois vous avez des visions qui s'entrechoquent. Et la question c'est de savoir qui a raison et quels sont les moyens qu'on prend pour essayer de faire prévaloir de manière intelligente sa vision des choses, qui peut être effectivement très très différente.
Alors Père François Daguet, on s'est dit qu'on allait parler, pour continuer cette définition de l'autorité, en fait, rapidement, hein, des maladies et des remèdes. Alors quelles seraient, selon vous, vous avez répertorié deux grandes maladies de l'autorité, quelles sont-elles ?
Bon, la première, tout le monde l'aperçoit très aisément, c'est la mutation de l'autorité en autoritarisme. C'est-à-dire que c'est user précisément de l'autorité que l'on détient, non plus justement au service du bien de ceux qui nous sont confiés, dont on a la charge, d'une façon ou d'une autre, mais subtilement au service de son bien propre ou du bien d'un autre groupe. Hein, tout simplement, on va s'appuyer sur l'efficience attachée à l'autorité, hein, qui se traduit par le pouvoir forcément qu'elle confère d'une façon ou d'une autre pour sa propre satisfaction. Ça, si j'ose dire, c'est vieux comme le monde. C'est la perversion première de l'autorité. Hein, on le comprend très très bien. Alors, Donc la perversion par l'autoritarisme qui est sa négation, hein, bien entendu. Ce n'est plus un service, justement. Hein, c'est un service de moi-même. La substitution de ma propre satisfaction, mon bien propre, au bien commun dont j'ai en principe la charge. Alors, c'est largement cela, d'ailleurs, je crois, qui va justifier, il faut le reconnaître, je dirais la pathologie contraire, hein, de l'autorité.
Qui est, selon vous, celle dans laquelle on baignerait aujourd'hui?
Alors, je crois que les deux coexistent, si vous voulez. Parce
aujourd'hui
que les perversions
encore.
De l'autorité en autoritarisme, on rencontre ça tout le temps. Enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux. Tout près de... Les perversions politiques, elles sont évidentes. Je veux dire, des tyrannies, il y en a jusque dans des pays qui font potentiellement partie de l'Europe plus à l'Est, si vous voulez, que chez nous.
Vous parlez de la Turquie, en l'occurrence.
Bah, par exemple, c'est évident. Bon, et puis il y a bien d'autres exemples. Bon, donc des tyrannies politiques, c'est pas ça qui manque. On en a l'expérience. Donc, ça n'a pas disparu. Mais la pathologie contraire, je dirais, c'est... les contraires sont souvent dans le même genre. C'est celle qui en vient à nier le principe même d'autorité. Et en général, au nom précisément de ces maladies et de ces pathologies. Et on va refuser, par principe, n'est-ce pas, l'exercice même d'une autorité, au motif que, qui dit autorité, dit domination. Voilà. Et qui dit domination, dit aliénation. Et ça, c'est quand même une rhétorique plus récente, qui, au fond, est une espèce de grande dilution, hein, de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave, dans les sociétés contemporaines, libérales, n'est-ce pas? Et c'est l'air que l'on respire quand même depuis une cinquantaine d'années maintenant, il faut bien le dire.
Alors, les remèdes, pour finir, pour vous, il y a quelques remèdes clés qui peuvent être autant de curseurs pour les gens qui sont en responsabilité, ou pour ceux qui ont des supérieurs hiérarchiques pour les aider à accomplir correctement leur service.
Vous savez, le remède, il consiste à retrouver le sens vrai de l'autorité, c'est-à-dire, premièrement, le sens précisément du service. C'est-à-dire que ce n'est pas sa propre satisfaction que l'on cherche d'abord lorsqu'on a une fonction d'autorité, et d'autre part, le sens du bien que l'on poursuit. Et c'est pour ça que le rapport de l'autorité à la vérité est très important, parce que c'est la vérité sur le bien que l'on poursuit. Hein. Qu'est-ce que l'on cherche à faire avec l'autorité qui nous est confiée?
Le premier aiguillon que vous me citiez, c'est que l'autorité ne s'exerce jamais tout seul, en fait. Il y a toujours une forme d'exercice collectif de l'autorité. Est-ce que vous pouvez expliciter ça?
La plupart du temps, ça dépend évidemment des structures auxquelles on appartient, mais la plupart du temps, il y aura des procédures ou de délibérations qui permettront justement d'exercer l'autorité en prenant le conseil justement d'autres personnes. Et c'est très important.
Hein, même chez les Dominicains, c'est comme ça?
Bon, surtout chez les Dominicains, voyons. On voit ça partout. Si vous voulez, des parents dans une famille ne procèdent pas autrement. Eux-mêmes, ils vont chercher des lumières, des conseils, quelquefois, face au comportement de certains enfants qui ne comprennent pas comment faut-il agir. Bon, c'est élémentaire. Et c'est en même temps un acte d'humilité. On ne détient pas tout seul. Donc on a besoin de se faire éclairer.
Donc il faut, voilà, c'est une forme, enfin dire, de régulation naturelle, hein, de contre-pouvoir naturel à vous entendre. Et alors l'autre chose, donc, c'est le remède, c'est que faire en sorte que cette autorité soit toujours au service de la vérité. Alors c'est un peu comme le bien commun, ça paraît derrière le mot vérité, probablement que les choses sont claires pour vous, mais aujourd'hui ce n'est pas du tout une évidence. Alors comment vous expliciteriez cela?
Il s'agit en l'espèce surtout des vérités justement concernant les personnes, c'est-à-dire la vérité sur ce qu'elles sont et sur le bien qu'elles poursuivent. Hein. Et ça, c'est tout l'objet de l'interrogation philosophique et théologique, d'ailleurs. Donc, c'est un sujet immense, hein, que vous soulevez là. Mais évidemment, tous ces sujets, nous percevons bien, sont connexes. Et ils nous permettent de comprendre la profondeur des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, là, ça fait quelques minutes que nous parlons, et en fait... on a évoqué des questions qui sont extrêmement fondamentales et que la pensée philosophique charrie, si vous voulez, depuis des siècles et des siècles, et bien avant le christianisme, hein, depuis 2500 ans.
Alors, on ne peut pas renvoyer à la lecture d'un de vos ouvrages, quoique, si vous voulez en citer un, n'hésitez pas, sinon on enverra aux Dominicains. Voilà, il faut aller toquer à la porte des Dominicains à Toulouse, ou autres Dominicains, pour peut-être continuer à avoir quelques lumières. On va faire une deuxième pause musicale, et puis on parlera après des apprentis d'Auteuil, peut-être comme un modèle d'un juste exercice de l'autorité, après cette courte pause musicale.
présence à Castelsarrasin, 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Faut-il restaurer l'autorité ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église ce matin avec, je vous rappelle, autour du plateau, Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie, auteur d'un ouvrage intitulé « Sans autorité, quelle liberté ?» Point d'interrogation, le père François Daguet, dominicain, directeur de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin, et donc Virginie Guerreria, qui nous a rejoint, qui est chef de service éducatif dans l'établissement Saint-Roch des apprentis d'Auteuil. Bonjour. Voilà, parlez bien près du combiné. Peut-être en quelques mots, je présente rapidement les apprentis d'Auteuil pour que ceux qui, par hasard, ne les connaîtraient pas. C'est donc aujourd'hui une fondation catholique reconnue d'utilité publique qui a plus de 150 ans d'existence et qui, dans plus de 200 établissements en France métropolitaine et outre-mer, accompagne des jeunes et des familles dits en situation de fragilité ou de difficulté. Ça fait plus de 30 000 jeunes et familles en France. Et puis, si vous deviez compléter cette courte présentation, l'établissement Saint-Roch, en quelques mots.
En quelques mots, les établissements Saint-Roch, c'est un collège, un lycée professionnel avec une unité de formation par apprentissage et deux maisons d'enfants à caractère social qui sont complétées par un internat éducatif et scolaire dans lesquels on accueille environ 150 jeunes en tout.
Voilà, je précise aussi que vous deviez être en plateau, mais que compte tenu de l'actualité et du mouvement de colère et de blocage des accès routiers à Toulouse, des agriculteurs, on fait ça par téléphone. Comment se passe l'exercice de l'autorité aux apprentis d'Auteuil face à un certain nombre de jeunes qui peut-être soit en ont manqué, soit ont eu un rapport à l'autorité qui est blessé? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques règles de base? Vous m'avez dit la chose suivante, la loi et la règle doivent faire autorité, mais c'est un peu, comment dire, vite dit. Qu'y a-t-il derrière cette expression?
Alors, en fait, notre prise en charge se base sur la confiance qu'on témoigne dès le premier entretien avec les jeunes et les familles que nous recevons. Nous leur exprimons que de prime abord, nous leur faisons confiance et que nous avons confiance en leur potentiel et en leur capacité à devenir des hommes debout. Lors des entretiens et tout le départ du travail avec les jeunes est basé sur l'explication et l'explicitation des règles et des lois, puisque l'autorité donc sur l'établissement se fonde là-dessus. Personne n'incarne l'autorité. On travaille les textes, les règles de vie tous ensemble, et c'est notre grille d'évaluation. À partir de là, les jeunes savent ce qu'ils sont en droit de faire, ce qu'ils doivent respecter, et nous en référons à ça pour pouvoir travailler en confiance avec eux.
Tous ces jeunes ont-ils en général un problème avec l'autorité? Et si oui, comment vous le qualifieriez, ce problème qu'ils ont avec l'autorité?
Alors, les jeunes, ils n'ont pas tous un problème avec l'autorité. En fait, c'est plutôt un problème avec le sens qu'ils donnent à ce qu'on leur impose. Et c'est là que notre travail se noue. On leur explique clairement les raisons des règles de vie qui, en fait, n'ont qu'un objectif, c'est le bien commun et le respect des uns et des autres. Et petit à petit, on se rend compte que des jeunes qui se sont confrontés à l'autorité, qui ont eu des comportements inadaptés, que ce soit dans leur vie quotidienne ou au niveau de leur établissement scolaire, en prenant conscience du sens de la règle et de la loi, comprennent et adhèrent, et du coup nous permettent de ne pas rentrer dans l'autoritarisme, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais vraiment de travailler sur le bien commun.
Vous me disiez aussi en préparant l'émission qu'il y a un certain nombre de règles objectives. Enfin, déjà, on a entendu que la loi est comme quelque chose en fait d'extérieur, que personne n'incarne directement ou de manière idéale, mais que cela tient aussi à des choses très simples comme, je sais pas, des règles d'hygiène. Enfin, un certain nombre de normes aussi. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ça?
Tout à fait. Quand j'évoque la règle et la loi, en fait, on s'appuie sur les données scientifiques notre expérience éducative et nos connaissances en matière d'éducation pour expliquer le sens. Je vais donner un exemple au niveau du sommeil, des règles disons au niveau de l'hygiène de vie, pour pouvoir ensuite travailler correctement et être en forme, on a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. On sait que le sommeil est parasité par les écrans, donc l'interdiction des téléphones portables, ce genre de choses à partir d'un certain moment de la journée, est mis en avant vis-à-vis de nos connaissances scientifiques sur le sujet, et donc expliquer aux jeunes pour leur bien-être personnel et ensuite pour le bien commun.
L'autre chose très importante, enfin c'est ce qu'on a entendu au début de l'émission, donc cette règle qui est comme extérieure en fait un peu à tout le monde, hein, sur laquelle tout le monde se met d'accord ou que l'on valide ensemble, c'est que il y a donc une confiance a priori. C'est un mot qui revient très souvent chez les apprentis d'Auteuil. On a l'impression que c'est presque votre ADN. Cette confiance, oui, ça veut dire que vous impliquez.
La confiance peut sauver l'avenir.
La confiance peut sauver l'avenir, c'est votre leitmotiv,
voilà.
C'est ça ?
C'est ça.
Vous impliquez aussi donc les parents, c'est-à-dire que cette autorité, en fait, c'est comme un triangle entre l'enfant, les parents et les éducateurs que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Tout à fait. On travaille tous ensemble et on est dans une communication avec les parents. Dès le départ, on leur exprime qu'on ne peut pas travailler sans eux. Chaque semaine, nos éducateurs font un travail formidable et prennent contact avec les familles pour faire un point, qu'il soit positif ou négatif, ce qui permet de restaurer justement la confiance vis-à-vis du scolaire, puisque nos jeunes arrivent souvent avec un passé tourmenté au niveau de l'école. Les parents sont dans une forme de défiance, puisque l'école a souvent, et de façon répétitive, exprimé des choses mauvaises sur leurs enfants. Et nous, on veille à leur téléphoner, même quand ça va bien, pour leur exprimer le positif comme le négatif, et pour faire en sorte de travailler à trois autour du projet du jeune. Et donc expliquer aussi aux parents nos façons de fonctionner, les règles et les lois sur lesquelles on fonde notre action éducative, ce qui leur permet aussi de prendre connaissance de choses dont ils ne sont pas forcément intéressés, et donc d'avoir une cohérence, puisqu'on voit des parents qui, au sujet, par exemple, voilà, comme on disait tout à l'heure, du téléphone portable ou du sommeil ou de l'hygiène alimentaire, n'avaient pas conscience de données scientifiques, et donc le mettent en œuvre aussi le week-end. Et petit à petit, ce travail se traduit par une implication des parents dans l'école. Et donc vraiment un travail pour le bien commun, tous ensemble, autour du jeune.
Père François Daguet, pour finir, ce qu'on sent souvent quand j'invite dans Vivante Église les apprentis d'Auteuil ou des gens qui, enfin des cadres, et parfois aussi côté jeune, c'est qu'il y a de l'amour. Est-ce que c'est le premier préalable en fait à tout juste exercice de l'autorité ? Qu'est-ce que vous diriez pour finir l'émission sur ce sujet ?
Écoutez, on hésite toujours à employer des termes un peu emphatiques, hein, tout à l'heure, le général Soublet parlait de bienveillance, Aristote parle d'amitié politique, je crois effectivement qu'une relation d'autorité, l'idée des personnes qui justement sont unifiées par la quête d'un bien, et par là même, cela réalise et a vocation à nourrir, si vous voulez, une relation amicale, affectueuse peut-être dans certains cas, c'est le cas évidemment de la famille, si vous voulez. Hein.
C'est même ce qu'on a entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron, qui disait qu'il aimait les Français, ou il voulait les aimer.
Eh bien, on ne peut que s'en réjouir, si vous voulez, parce que je crois justement qu'il y a une amitié politique. On se rend bien compte, si vous voulez, que, et justement l'exemple des orphelins d'Auteuil est extrêmement significatif, ce qu'on a entendu le montre bien, c'est que la quête partagée d'un bien, le service de l'autorité, doit être pratiqué dans une relation personnelle qui est fondamentalement une relation aimante. Hein.
Amitié politique, ça veut dire quoi, juste en quelques mots?
C'est... Eh bien, c'est que les relations que nous avons les uns avec les autres ne sont pas seulement régies par la justice, mais qu'il y a le fait, tout simplement, de cette amitié qui jaillit du fait qu'on appartient à une même communauté, qu'on cherche justement à atteindre ensemble un bien qui nous est commun, précisément.
À l'échelle donc d'une famille comme à l'échelle d'une patrie. Merci beaucoup à nos invités d'être venus nous éclairer ce matin sur ce thème de l'autorité. Je rappelle
juste
le titre...
Juste pour terminer, oui, si pardon. Vous voulez bien, je voudrais juste laisser la conclusion au maréchal Lyautey qui disait, parce que je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il disait, « Il n'y a pas d'œuvre humaine qui, pour être vraiment grande, n'ait besoin d'une parcelle d'amour. » Je crois que ça résume tout.
Merci beaucoup Bertrand Soublet. Donc le titre de votre ouvrage « Sans autorité, quelle liberté » aux éditions de l'Observatoire. Et merci aux apprentis d'Auteuil et au père François Daguet pour cette émission ce matin. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.